Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Reportage, l'émission de Micro Rebelle qui vous emmène à la rencontre des gens du bassin minier. Alors cette semaine, nous inaugurons une nouvelle série intitulée Mémoire vivante et pour ce premier épisode, c'est l'entretien avec Léa Bismuth, commissaire d'exposition au La Banque à Béthune. Alors commissaire d'exposition, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que nous allons découvrir avec elle et en même temps, elle va nous parler de la prochaine exposition intitulée Dépenses autour de l'œuvre de Georges Bataille, La Part Maudite, un livre sorti en 1949. Je vous laisse avec cette nouvelle série et je vous dis à la semaine prochaine, bonne écoute. Léa Bismuth, donc on est au La Banque, dans les appartements, il me semble, du directeur à l'époque. Et nous allons discuter autour du projet La Traversée des Inquiétudes, qui est une trilogie d'exposition autour de la pensée de Georges Bataille. Et le 8 octobre débute le premier volet, Dépenses, qui s'inspire librement du livre La Part Maudite. Mais avant tout, donc vous êtes commissaire d'exposition et je pense que pour nos auditeurs et auditrices, c'est quelque chose qui reste flou. Donc la première question, c'est est-ce que vous pouvez présenter votre métier ?
Oui, bonjour. Alors en effet, le métier de commissaire d'exposition s'il n'est pas forcément nouveau, en tout cas, il est constamment en train de se redéfinir en ce moment. Il y a, je pense aussi, différents types de commissaires d'exposition. Il se trouve que moi, je viens de la littérature et de la philosophie à l'origine. Puis, je me suis évidemment intéressée à l'histoire de l'art que j'ai étudiée à l'université, puis à l'art contemporain. Et en fait, c'est en devenant critique d'art, c'est-à-dire en étant au contact des artistes de mon temps sur lesquels j'ai écrit, que progressivement, je me suis dit qu'en fait, il fallait aller plus loin dans cette relation-là avec eux et au lieu de simplement écrire sur leur travail, commencer à travailler avec eux dans l'espace, en imaginant ensuite une réflexion qui m'est propre et qui me permet finalement de faire se rencontrer mes deux passions, enfin la littérature et la philosophie d'un côté et l'art contemporain de l'autre, sachant que les artistes de tout temps et aujourd'hui aussi en particulier sont aussi des gens qui évidemment s'intéressent aux sciences, s'intéressent à la philosophie, s'intéressent à l'écologie, s'intéressent à la politique et finalement vont mettre en œuvre une réflexion en l'incarnant dans une œuvre. Donc c'est ça qui m'intéresse en fait. Et donc le commissariat d'exposition, s'il fallait en donner une définition simple, j'aimerais bien dire que c'est une mise en scène à un moment donné d'une problématique où des artistes peuvent se rencontrer dans un espace.
Pour qualifier un peu votre métier, vous évoquiez la mise en scène et justement c'était une analogie que je voulais aborder avec vous. Est-ce qu'on peut dire que le métier de commissaire d'exposition, c'est l'équivalent du metteur en scène au cinéma ou au théâtre ?
Alors, concernant la question de la mise en scène, elle est malgré tout épineuse. Parce qu'en général, elle est mal comprise, même au cinéma et au théâtre. C'est-à-dire que le metteur en scène n'est jamais celui qui tire les ficelles, mais il est par contre une personne centrale et secondaire à la fois, qui va permettre de faire des liens, en réalité. Et c'est ce rôle-là, en fait, que j'ai décidé d'endosser. Par exemple, ici, c'est vrai que j'ai réuni 21 artistes, dont 11 artistes qui ont fait une œuvre spécifiquement pour l'occasion. Et ces artistes-là, avec qui j'ai une relation privilégiée, finalement, on était dans un constant dialogue. Donc, si vous voulez, on pourrait faire l'analogie avec la mise en scène, mais en n'oubliant jamais que ce qui compte, c'est de faire une exposition ensemble. Donc je parlerais plutôt d'écriture collective, de mise en œuvre collective d'une réflexion à partir d'un terrain de jeu qu'on s'est donné. Ce terrain de jeu, il se trouve que j'ai décidé que c'était la pensée de Georges Bataille. Ceux qui ça n'intéresse pas ne sont pas obligés de participer, et ceux qui ont envie, on peut commencer à rigoler, à s'amuser, à travailler, à réfléchir ensemble. Et après, évidemment, l'exposition émerge comme une forme qui a aussi son autonomie. Comme un spectacle a aussi son autonomie. Et je dirais en fait que l'exposition, après, elle fait sa vie. Mais tous les artistes pourraient dire ça d'une exposition personnelle, en fait. Par exemple, un artiste, je pense à Laurent Pernaud en ce moment, il est ici en train de travailler. La semaine dernière, il a verni son exposition personnelle dans sa galerie à Paris. Et je pense qu'il pense, il a tout à fait conscience que son exposition fait sa vie à Paris pendant qu'il est ici. Et ici aussi, à un moment donné, ben, finalement, l'exposition, elle respire au contact des spectateurs qui vont la traverser. Et après, elle n'appartient plus à personne, d'une certaine manière, je pense. Elle appartient aux spectateurs, elle appartient au lieu, à l'âme du lieu, et elle va laisser sa trace comme ça. Alors après, on peut écrire sur l'exposition, on peut essayer de réfléchir, on peut essayer d'améliorer, on peut essayer de comprendre les infinis liens qu'il y a ici entre les œuvres, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est un projet que j'ai mûri pendant très longtemps. Donc, il y a des ramifications dont j'avais même pas conscience avant qu'on soit ici pendant les 15 jours de montage et qu'on travaille tous ensemble. Et c'est très, très beau parce que c'est des discussions infinies. Donc, si c'est une mise en scène, c'est au sens d'un travail actif et collectif qui est toujours avant tout une expérience.
Vous évoquez l'expérience et une création collective. Et pour rester toujours dans l'analogie, on va dire, du théâtre et du cinéma, ça me fait penser à ces réalisateurs, metteurs en scène, qui par exemple ont eu des projets, d'improvisation collective. Je pense à Rivette avec Out One, qui est un film qui dure plus de 13 heures et qui n'avait pas de scénario, où il a laissé ses acteurs et actrices improviser une histoire, lui-même jouer dedans. Quelque part, une exposition, c'est un peu comme une performance artistique. Et quel rôle le commissaire d'exposition tient dans cette performance ?
Bon, c'est une excellente question parce que moi je parle en effet d'expérience ou de laboratoire, et là-dedans il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le travail en amont qui a été quand même de réunir les artistes, c'est vrai, autour d'une table, de discuter. J'aurais aimé le faire encore plus, c'est quelque chose qui malgré tout résiste. Qui est pas simple dans le champ des arts plastiques, parce que il y a évidemment la figure de l'artiste seul à l'atelier qui perdure, pas pour tous les supports évidemment, mais pour certains en tout cas. Donc bon, déjà réunir les artistes autour d'une table, c'est une chose. J'aimerais le faire davantage pour le volet numéro 2, mais même ça peut passer par des expériences de type de rencontres, de repas, d'amitié aussi. C'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je pense qu'une exposition, ça doit être vivant. Donc si on parle d'expérience ou de performance, on parle de vie. Après, il y a une autre donnée à prendre en compte, c'est ce qui se passe au moment du montage. Ce qui s'est passé ces deux dernières semaines, l'exposition, je la visualisais dans ma tête, j'avais même pas fait de sketch-up ni rien, et elle est apparue ici avec les artistes, avec aussi les scénographes et régisseurs qui nous accompagnent et qui font partie intégrante pour moi du geste artistique global. Et il y a des choses un peu miraculeuses qui se passent et qui nous ramènent vraiment vers l'improvisation et la performance, mais comme une réflexion comme une réaction à un milieu donné aussi. Et il y a quelque chose de fabuleux dans cet endroit qu'est la banque, c'est un endroit habité habiter de présence, habiter de peut-être de fantômes, comme certains des artistes en ont parlé, notamment Kendall Gears, il a parlé de ça, c'est un petit peu en rigolant, mais il y a du vrai là-dedans. Et il y a des artistes qui sont justement partis dans des propositions in situ, et ils ont forcément dû réagir au lieu comme ils se présentaient. Et je pense à deux artistes, je pense à Manon Bellé, qui sur le plateau central a fait un très grand mur de cendres, où elle a vraiment passé du temps ici, tout un week-end, à installer les cendres. Et elle n'a fait que dialoguer de manière directe avec le lieu. Ah, évidemment, on avait déterminé avant l'espace, etc. Mais la proposition... elle est absolument, enfin, elle a surgi là, comme ça, pendant un week-end. Je pense aussi à Laurent Pernot, qui ici a fait une installation in situ aussi, dans une des chambres du premier étage, où il a entièrement recouvert les murs d'une chambre de peinture, qu'il a réalisé avec du sang humain, il faut quand même le dire, et qui sont des papiers peints qui recouvrent entièrement l'intérieur d'une chambre sur le motif d'un mur de briques. Et il se trouve qu'à l'origine, quand il est arrivé à Béthune, on est arrivé ensemble la semaine dernière, c'était pas du tout ça le projet. Le projet, c'était de faire un papier peint bourgeois, dans le style Liberty, avec des fleurs. Arrivant ici, on passe une journée, et le deuxième jour, il m'envoie un texto tardivement dans la soirée en me disant « Écoute, j'ai marché dans la ville, j'ai vu des murs de briques, demain je crois que je vais faire des murs de briques. » Et ça, c'est de l'improvisation. Mais c'est de l'improvisation au même titre qu'un artiste quand il est dans son atelier et qu'il voit qu'à un moment donné la matière elle résiste, il faut lui faire dire quelque chose, il faut la contredire, il faut se contredire soi-même, il faut expérimenter et on y va. Et donc là d'un coup c'est le mur de briques qui est apparu et ça a tellement de sens avec la logique globale de l'exposition. Et puis de toute façon ça ne peut que en avoir parce que ce qui m'intéresse aussi c'est qu'on soit dans un réel rapport de confiance avec les artistes et que si d'un coup il a envie de faire un mur de briques alors que c'était pas ça qu'on avait prévu, ben moi je lui fais entièrement confiance si on dialogue et si on avance ensemble dans cette histoire. Voilà, moi je suis, si vous voulez, une sorte de garant de l'ensemble, mais à un moment donné il faut aussi accepter que ça échappe. C'est ça qui est beau.
Alors vous évoquez justement ce rapport que vous avez avec l'artiste. Que l'artiste avec le lieu, une forme de triangulaire, si on peut dire ça comme ça. Alors justement, je voulais aborder avec vous la question du lieu, puisqu'on est dans la banque, qui est une ancienne succursale de la Banque de France, réaménagée en musée, dédiée à l'art contemporain. Comment en êtes-vous venu à travailler avec la banque ?
Alors, en réalité, c'est le fruit d'une rencontre, et d'une invitation. J'ai rencontré Philippe Massardier il y a quelques années maintenant, 2 ans, je pense, quand il avait fait le projet Ligne de Front, avec les containers dans les villages de la Ligne de Front, justement, qui évoquait la guerre de 14-18. Et on s'est rencontrés à cette occasion-là. Et puis, on a dialogué. Il m'a beaucoup interrogée sur ce que j'imaginais être le commissariat d'exposition. Et je dois dire qu'il m'a semblé assez réfractaire dans un premier temps. Et puis, finalement, on a dialogué autour de l'espace, de la banque, que je suis venue visiter plusieurs fois. Je dois dire que je suis quand même tombée amoureuse de cet endroit, que c'est magnifique, pour plusieurs raisons. Déjà parce que il y a cette âme dans le bâtiment dont je vous parlais. Aussi, il y a toutes ces ambiances différentes, avec ce grand plateau central qui accueille des installations, les sous-sols qui sont un peu bruts et âpres et difficiles à cerner. Ce premier étage dans lequel on se trouve, qui est très bourgeois, avec des parquets, des moulures, des cheminées, des lustres. Un éclairage pas facile d'ailleurs, mais j'ai décidé de m'en contenter aussi parce que c'est ça le lieu. Et le deuxième étage, que là j'ai transformé en un espace beaucoup plus ténébreux, parce que c'est l'espace du rituel dans l'exposition. Donc on a des rideaux, on a des petites pièces, on a tout un parcours un peu labyrinthique que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà comment ça s'est passé. Ensuite, je dois dire que Philippe, au tout départ, donc Philippe Massardier m'avait en fait proposé de réfléchir à la notion de la banque, en fait, de l'argent, de la financiarisation des choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lui parler de La part maudite de Bataille, qui est donc cet ouvrage d'économie politique dans lequel Bataille défend l'idée d'une économie de la perte fondée sur un principe de don. Et de consommation, c'est-à-dire une énergie qui se consumerait comme un feu qui brûle, au lieu d'être dans une logique de consommation ou de thésaurisation, à savoir on met l'argent dans les coffres, on ferme le coffre. Lui, il veut que ça brûle. Et après, il y a plein de choses à prendre en compte pour expliquer le parcours de l'exposition autour de ça. Et puis, du coup, en discutant avec Philippe de cette question de la dépense, on en est arrivé à s'embarquer dans ce projet de trilogie. Parce que, pour moi, la pensée de Bataille étant extrêmement riche, il devenait essentiel de tenter une expérience sur le long terme. Et ça, c'est Philippe qui me l'a proposé. Et j'étais extrêmement heureuse, en fait, de répondre à ça. Parce que la pensée de Bataille, je l'étudie maintenant depuis une douzaine d'années. Je l'ai étudiée à l'université en philosophie. Je l'ai beaucoup lue. Elle m'a servi de prisme à travers lequel je pouvais écrire sur l'art contemporain pendant longtemps. Et après, je voulais enfin essayer d'aller encore plus loin dans cette relation que j'avais avec cette pensée-là pour aller au contact des artistes pour créer le projet d'exposition. Et la trilogie, elle est née comme ça, cette volonté d'adapter librement la pensée de Bataille au format de l'exposition, en inventant une forme d'exposition, justement. Cette forme d'exposition, elle est rendue possible parce que la banque est un lieu de production en art contemporain aussi. Donc évidemment, associer des artistes avec moi dans ce cadre est grandement facilité et nous permet d'aller très très loin tous ensemble, en fait. Parce que comme on a des capacités de production, on peut véritablement travailler ensemble à penser l'espace, à penser les pièces, à penser le dialogue, etc.
Donc je pense qu'on a fait le tour de la question autour du lieu et de ses inspirations, puisque vous répondez tout ça à la fois. Et vous évoquez brièvement votre rencontre avec Georges Bataille. Alors, est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur votre rencontre avec l'œuvre de Georges Bataille et puis cette personnalité, ma foi, assez originale dans le domaine de la littérature française?
Alors, c'est une grande histoire. Par où commencer? En fait, j'ai découvert Bataille en découvrant un texte dont je m'emparerai pour le second volet de la trilogie, qui est l'expérience intérieure. Donc l'expérience intérieure, c'est un livre que Bataille écrit en 1943, en pleine guerre mondiale, et il est dans une situation de crise intime au sein d'une crise politique. Et il invente une forme, en fait. Il invente une forme fragmentée qui est entre poésie, journal intime, essai philosophique. Et ça m'a bouleversée de voir qu'on pouvait mettre tout ça dans une écriture qui plus est était quand même une écriture de l'intime. À l'époque, je travaillais aussi en histoire de l'art de manière parallèle à mes recherches sur Bataille. Je travaillais sur la question de l'intime et de l'autoportrait et de la mise en scène de soi et de ce que j'appelais et j'appelle toujours une expérience littéraire de l'existence qui pouvait prendre une forme plastique. Et donc l'expérience intérieure, elle est arrivée comme un livre miraculeux à ce moment-là. Mais au-delà de ça, après, évidemment, j'ai étudié Bataille. Donc ma maîtrise de philosophie portait en fait sur ce que Bataille appelle une expérience athéologique, c'est-à-dire une expérience, le fait d'être jeté dans le monde en sachant que Dieu est mort, finalement, il repart de Nietzsche. Donc la théologie, avec ce « a » privatif, c'est quand même faire une théologie, mais une théologie privative. Donc il y a un rapport à Dieu, mais par son absence. Bon, c'est toute une pensée de la première moitié du XXe siècle. Hein. Il y a Bataille, il y a Blanchot, en héritier de Nietzsche, qui ont pensé tout ça. Donc ça, c'était pour moi très important, en fait, d'asseoir théoriquement ma vision de l'art à partir de ça. Et donc le rapport à cette, ce que Bataille appelle après par la suite une expérience de souveraineté. L'expérience artistique est une expérience de souveraineté parce que Dieu étant absent, résolument absent, on doit le remplacer par l'œuvre d'art et donc par soi-même et par cette expérience intime du monde. Donc ça c'est une chose, voilà, c'est peut-être le grand socle de ma rencontre avec Bataille. Après, évidemment, il y a aussi une place très importante de Bataille dans le champ de l'art de son temps. C'est quelqu'un qui a été un temps le rival d'André Breton, qui a voulu créer un autre surréalisme, un surréalisme dissident à partir de la revue Document. J'ai déjà fait un projet autour de la revue Document et ça m'intéresse de poursuivre ça. Ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que Document a beaucoup autre chose à nous dire aussi aujourd'hui sur la question de l'informe, sur la question plein de choses. Ils sont en jeu. Et donc c'est aussi cet homme de l'art à sa manière, ce critique d'art là aussi qui m'intéresse. Il y a le poète, il y a le critique d'art, il y a le philosophe. Et il y a aussi l'homme, parce que sa vie est absolument intrigante. C'est un personnage qui a des milliards de facettes. C'est un personnage fictionnel en lui-même, en fait. Et en même temps, et c'est là aussi que aujourd'hui, pour moi, c'est important de travailler là-dessus. En même temps, il est méconnu. Il n'est pas forcément connu pour les bonnes raisons. Quand on parle de Georges Bataille, en général, on dit « Ah oui, j'ai lu l'Histoire de l'œil où Madame Edouarda a 18 ans, c'est porno. » Bon, soit, mais c'est aussi le philosophe que je vous ai décrit. Et pour moi, évidemment, il faut prendre toutes les facettes en même temps. Mais il y a une grande question que je me suis posée, par exemple, c'est que faire de la question de l'érotisme dans l'exposition. Et au lieu de consacrer un chapitre entier à ça, j'ai décidé, par exemple, de diffuser cette question-là à l'intérieur même de la trilogie. Parce que dans son œuvre, cette question précisément est diffusée partout. Et elle est centrale et rayonnante, mais il y a évidemment aussi toute cette notion d'expérience qui compte et qui par moment, évidemment, est une expérience multiple et pas uniquement érotique. Donc ça c'est une donnée importante. Et ensuite, Bataille a eu une certaine aura, je dirais, dans certains milieux intellectuels qui ont relu Bataille à partir des années 70. Je pense à Tel Quel, je pense évidemment aussi au Jean d'Art Presse, qui bien sûr Foucault, etc. Je pense à l'histoire de la philosophie, mais je pense même à cette histoire de la pensée littéraire en France qui a remis au goût du jour un Bataille, mais tout en gardant ses distances aussi par moments. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense qu'il faut aussi peut-être que certaines personnes n'aimeront pas que je dise ça, mais poser un nouveau regard sur Bataille, un regard qui soit moins ténébreux, moins romantique ou moins fasciné aussi. Moi, je ne me pose pas en historienne, je ne me pose pas en quelqu'un qui a besoin de rendre hommage, ni d'ailleurs en spécialiste, mais j'ai envie de prendre le pari que on peut s'en servir, on peut en faire usage aujourd'hui d'une nouvelle manière, avec pourquoi pas des artistes de ma génération, avec des artistes qui sont historiques aussi. Ici, évidemment, il y a la présence de Pierre Klossowski, c'est un compagnon de route de Bataille. Pour moi, c'était important qu'il soit là dans la première exposition, parce que c'est une manière aussi, pourquoi pas, de légitimer le geste que j'ai décidé de faire. Et ça prend d'autant du sens que Klossowski soit là quand, à côté, il y a un jeune artiste de 30 ans qui fait une expérience, parce qu'on a dialogué.
Bienvenue à celles et ceux qui prennent l'émission en cours. Alors, c'est Mémoire Vivante, une nouvelle série de reportages. Et vous êtes en train d'écouter l'entretien avec Léa Bismuth, commissaire d'exposition à la Banque à Béthune.
Pour continuer un peu sur Georges Bataille, sa personnalité et puis son œuvre très hétérogène, une citation. Donc, ce sera une question en deux parties avec d'abord une citation. Que j'ai trouvé dans La littérature et le mal. Les arts sans cesse évoquent devant nous ces désordres, ces déchirements et ces déchéances que notre activité entière a pour but d'éviter. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque en tant que commissaire d'exposition et puis critique d'art ? Et ensuite, vous parliez de la position de Bataille dans la littérature et dans l'esprit des gens. Ce personnage dont on sait trop quoi faire un peu, à la fois admiré pour ses talents d'écrivain, de critique, et en même temps mis un peu au placard par ses goûts et ses positions. Est-ce qu'il n'y a pas un miroir qui se crée entre l'aura de Bataille et l'idée qu'ont les gens, qu'ont le grand public de l'art contemporain?
Alors peut-être pour rebondir tout de suite sur la citation que vous avez lue, en gros elle dit cette citation finalement que l'œuvre d'art répond à une déchéance ou à une solitude essentielle que l'existence en général préfère éviter, c'est ça, quelque chose comme ça. Donc en fait, il veut dire là que l'œuvre d'art serait un moyen d'aller au front en fait, d'aller au contact, de prendre un risque. Et dans l'exposition, il y a un artiste qui fait exactement ça. Et depuis que je l'ai rencontré, on en a parlé. C'est Antoine Dagata qui, pour le coup, lui, prend le risque de l'existence pleinement vécue à travers son expérience du monde en acceptant... Tout ce que ça peut impliquer en fait, en termes de d'excès, de transgression, de perte, de violence, et aussi de possibles lumières dans la nuit quand même. Enfin, moi j'y vois ça. Donc pour moi, Antoine Dagata qui fait cette grande installation filmique dans les sous-sols de la banque répond pleinement à cette phrase de Bataille. Et ensuite, sur la question que vous posiez sur est-ce que Bataille, en gros, nous tendrait un miroir ou serait une sorte de symptôme de l'art contemporain? C'est à peu près ça que vous vouliez dire. Je pense, là encore, qu'il ne faut pas méconnaître ou comprendre dans un sens trop simple qui est Bataille. Bataille, ce n'est pas quelqu'un qui veut du sacrifice pour du sacrifice, du transgressif pour du transgressif, qui veut de la merde et du sang. Bataille, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre au cœur de l'humain, ce qu'est l'humain, au cœur de son obscurité, de sa profondeur. Et en cela, finalement, je pense que si Bataille a quelque chose à dire de l'art contemporain, c'est plutôt une force qu'il faut aller chercher chez lui, en fait. Et quand bien même ceux qui voudraient faire du scandale pour du scandale, il ferait mieux d'aller chercher dans Bataille peut-être de quoi faire un vrai scandale, mais à ce moment-là, aller peut-être plus loin. Donc je pense que cette exposition, c'est pas, si vous voulez, un manifeste de l'art contemporain, ni un télo, ni scandaleux. Au contraire, on est dans des manifestations extrêmement généreuses, vivantes, pleines d'énergie, en fait. Et les artistes, en allant dans Bataille, ils sont allés chercher du vivant, vraiment. Et ça, c'est important de le dire, parce que souvent, on croit que Bataille, c'est morbide, mais il n'y a rien de plus vivant que cette exposition, je pense. Même s'il y a des vanités, même s'il y a des expériences limites, on a vécu une expérience incroyable. Et il y a beaucoup, beaucoup d'énergie dans tout ça. Alors, il se trouve que c'est un des titres de chapitre, l'énergie. Mais si je suis allée chercher du côté de la part maudite la question de l'énergie, c'est parce que elle nous dit des choses aujourd'hui du côté politique, du côté écologique, et qu'il faut pas se tromper sur ces termes-là. Donc bataille, oui, ne toujours vraiment ne pas en rester à la première impression, aller lire davantage. Et cette exposition, je pense que le but, c'est ça aussi, c'est de faire comprendre que bataille, c'est pas ce que l'on peut croire au premier abord.
Très bien, on va légèrement s'éloigner un peu de la personnalité de bataille. On va revenir un peu sur votre projet de trilogie. Est-ce que vous pouvez le présenter plus en détail, revenir aussi sur cette expression que vous avez employée, forme exposition, donc pour les auditeurs et auditrices, c'est un mot valise. Pourquoi ce besoin d'expérimenter un format d'exposition nouveau, si je puis dire, qui va s'étaler sur 3 ans, donc, comme on va au cinéma pour voir une saga. Là, c'est une sorte de saga autour de bataille. D'où est venue cette idée de faire traîner comme ça dans le temps une pensée, quelque part ?
Alors, tout d'abord, ce que je dois dire, c'est que c'est une chance incroyable pour un commissaire d'exposition d'être dans ce lieu et d'avoir le temps. Parce qu'on n'a pas besoin de courir après les projets, on peut s'installer dans un lieu, le connaître, le comprendre et prendre le temps de déployer ça. Si c'est sur 3 ans, c'est parce que la pensée de bataille est d'une richesse et d'une complexité infinie. C'est avec Philippe Massardi, un jour, je lui dis, un petit peu en plaisantant, mais il faudrait en faire une trilogie. Et il me dit immédiatement, mais bien sûr, on va faire ça, on va tenter cette expérience-là ensemble. Et ensuite, évidemment, du coup, j'ai construit la trilogie. En cherchant comment finalement elle pourrait se déployer dans le temps, être fidèle à bataille, travailler à partir de lui, autour de lui et avec les artistes. C'est pour ça que chaque volet adapte un ouvrage de bataille ou un terme, une problématique, qu'ensuite je thématise. Le premier volet dépenses se divise en 4 chapitres, énergie, excès, dons et rituels. C'est des choses que je suis allée chercher dans la part maudite. Il y a des choses que j'ai mis de côté. Il y a des choses que j'ai décidé de traiter, en fait. Et c'est là que je parle de libre adaptation. Parce que finalement, je fais ce que je veux avec cette matière-là. Et on fait ce qu'on veut aussi, tous ensemble, avec ça. Pour le deuxième volet, donc en septembre 2017, ça sera autour de la question de l'intériorité. Et là, j'en viens à cette position centrale dans laquelle je voulais mettre le livre qui m'a tant frappé il y a 12 ans maintenant, qui est l'expérience intérieure. Donc c'est depuis ce centre obscur qui va être cette exposition que la trilogie entière va rayonner. Parce que l'exposition à partir de l'expérience intérieure sera une exposition qui sera une expérience de la nuit, de l'obscurité, de la perte de repères, de l'errance, du secret aussi, c'est un terme qui m'est très cher. Il y aura un rapport à la mystique aussi, à des géographies archaïques, parce que c'est ça que j'y vois, moi, dans l'expérience intérieure. Qui a un livre qui brasse évidemment des tas de choses, mais il y a une phrase centrale qui dit il est des jours où le fil d'Ariane est cassé, donc on est coincé dans le labyrinthe. Donc, dans la deuxième exposition, on sera coincé dans le labyrinthe, alors que dans la première, la phrase qui nous a guidés, c'est le soleil donne sans jamais recevoir. Donc, c'était cette puissance d'énergie. Et la dernière exposition, enfin, en 2018, sera autour de la question du vertige. Et une manière, je l'espère, de sortir de la nuit et de la pensée de bataille en même temps, à travers la question du vertige, de l'illumination, en fait. Qui est quelque chose qui est présent chez Bataille hein, aussi et qui va être important de souligner. Donc cette trilogie, voilà, elle se construit comme ça.
Vous évoquiez justement cette phrase qui est un peu le leitmotiv de l'exposition Dépenses, donc le soleil donne sans jamais recevoir. Mais il y a une suite à cette phrase que je trouve intéressante. C'est le soleil qui maintenant emprunte son éclat à la mort, a enseveli l'existence dans la puanteur de la nuit. Par rapport à ce que vous venez de dire sur justement ce deuxième volet qui sera consacré à la nuit, est-ce que cette phrase fait résonner quelque chose en vous ?
Alors, la question du soleil et de la nuit, ouais, c'est peut-être en effet le point de rupture entre les deux expositions. Il y a une phrase que Bataille met en exergue au début de l'expérience intérieure, qui est une phrase de Nietzsche qui dit « La nuit est aussi un soleil ». Et si vous voulez, du coup, ça me permet de vous répondre en tournant un peu la chose à mon avantage. Mais la nuit est aussi un soleil, ça veut dire que dans l'obscurité la plus totale, je pense que l'expérience artistique est possible. Et j'en reviens encore à Antoine d'Agata, là, qui est pour moi... voilà, cette présence qui dit au plus juste... ça. Et sans doute que ce point de bascule entre soleil et nuit, en fait, c'est ça qui va permettre la transition, oui, entre les deux expositions. Après, dans cette exposition-là, où le soleil donne sans jamais recevoir, le plateau est cette espèce d'endroit où l'énergie apparaît. Brûle, se consume, donc on a d'un côté la lumière, de l'autre côté les cendres, d'un côté le feu, de l'autre côté la combustion, et dans l'exposition il y a des parties solaires, mais il y a aussi des parties beaucoup plus mystérieuses, secrètes. Je pense notamment aux vidéos qui sont présentées au deuxième étage, par exemple à la vidéo Élégie de Clément Cogitor, ou à la vidéo The Head of Winter de Marco Godinho, qui sont des appels dans la nuit comme ça, mais qui sont des adresses aussi à des forces. Donc, dans la nuit, on peut chercher quelque chose. Et là, Bataille, il emprunte au romantisme allemand, hein, il emprunte à Novalis, il emprunte à tout ça, finalement, à ses hymnes à la nuit, mais tout en les rendant contemporaines, parce qu'il les rend informes, si je puis dire, aussi.
On va doucement arriver vers la fin de cette discussion, et pour ouvrir et peut-être donner envie aux éditeurs, auditrices, d'aller voir Dépenses ou de s'intéresser à Bataille. Je voudrais que vous me parliez de trois œuvres qui vont être présentées dans Dépenses. Alors, une où vous avez un rapport particulier avec elle ou avec son artiste, et une qui, pour vous, représenterait très bien une citation que Bataille, justement, évoque, je crois, dans La part maudite, la citation de William Blake, l'exubérance de la beauté. Et une troisième qui, pour vous, représenterait très bien, illustrerait très bien Dépenses et toute cette énergie solaire qu'elle contient.
Alors, oui, une œuvre qui témoignerait d'une relation privilégiée avec un artiste. Alors, il y en a plusieurs, mais je vais vous parler d'une pièce qui est pour moi importante parce que c'est un artiste avec qui je suis en contact depuis longtemps, qui m'a permis de comprendre des choses. Je citerai la pièce de Lionel Sabaté, qui est sur le plateau central, qui est constituée d'arbres brûlés, qu'il a récupéré sur la montagne Sainte-Victoire. Donc, c'est pas un endroit anodin pour qui connaît son histoire de l'art et la place de Cézanne. Donc, il récupère ses arbres sur la montagne Sainte-Victoire. Donc, quand on pense à la montagne Sainte-Victoire, évidemment, on pense à Cézanne et tout ça. Alors, c'est pas une référence directe dans la pièce, mais c'est cette référence à l'histoire de l'art, à l'histoire de l'impressionnisme, à la peinture sur le motif, quelque part, elle est là. Et donc, Lionel, il a récupéré donc ces arbres qu'il a décidé de faire refleurir. Donc, il fait refleurir des arbres morts, des arbres brûlés, et il fait refleurir ces arbres avec des peaux mortes. Des peaux mortes qui sont en fait des résidus de peaux humaines, d'ongles notamment. Donc tous ces déchets que l'on jette, que l'on met dans nos poubelles de salle de bain, et ben lui il décide de les récupérer. Ce qui pourrait être abject en fait devient une fleur. Donc il y a une sorte de floraison. Et en fait, ce dont il nous parle, c'est du pouvoir de métamorphose, du pouvoir de régénérescence du vivant. Et c'est ça qui me plaît, parce que finalement, il y a chez Bataille, dans La Part maudite, cette idée qu'il y a, que ça brûle, mais que ça crée du vivant en permanence, en fait. Et c'est pour ça que ça s'appelle Printemps, sa pièce, à Lionel Sabaté. Et voilà, pour moi, c'est une pièce assez exemplaire qui a des implications, notamment écologiques. Et évidemment plastique aussi, puisque c'est aussi quelque chose un peu d'alchimique. C'est je prends de la boue et j'en fais de l'or, je prends des ongles et j'en fais des fleurs. C'est quelque chose qui m'a toujours fait beaucoup réfléchir. Et depuis que je connais Lionel, on s'est rencontrés il y a 4-5 ans, et à chaque fois que j'allais à l'atelier, je pensais à Bataille. Et je savais qu'un jour, il serait dans une exposition sur Bataille. Donc, la deuxième œuvre dont vous voulez que je vous parle serait une œuvre qui...
La deuxième œuvre, c'est celle qui, pour vous, illustrerait parfaitement la citation de William Blake, « L'exubérance de la beauté ».
Alors, cette citation de William Blake, « L'exubérance de la beauté », une œuvre qui me vient à l'esprit, c'est une pièce incroyable qui est présente dans l'exposition, qui est une œuvre historique de Michel Journiac, qui date de 1972 et qui s'intitule « Le contrat pour un corps ». Et Journiac a trouvé, si ce n'est volé, mais trouvé un squelette humain qu'il a décidé d'entièrement recouvrir à la feuille d'or. Et il l'assoit comme une sorte de scribe ou de sphinx humain. Et c'est une vanité incroyable. Parce que c'est donc ce squelette entièrement recouvert à la feuille d'or qui nous regarde, de sa présence humaine et divine en même temps, en fait. Et en même temps, c'est le contrat pour un corps, c'est-à-dire quel type de contrat on est capable de passer avec un corps humain. Et est-ce que Journiac appelle l'étalon or n'est pas une manière finalement aussi de mettre en commerce notre rapport au corps. Donc l'exubérance de la beauté, oui, parce que y a de l'or et il y a de la mort à la fois. L'or et la mort, quand même, c'est des choses qui intéressent Bataille. Enfin, on est presque du côté là de la rencontre entre la nuit et le soleil. Enfin, c'est assez proche finalement. Et Journiac, c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup intéressé aussi parce que il est connu pour avoir fait ses fameuses messes pour un corps. C'est quelqu'un qui très certainement connaissait bien l'œuvre de Bataille aussi.
Alors, et la troisième œuvre, celle pour vous qui illustre très bien ce titre, Dépenses.
Je dirais une œuvre qui illustre Dépenses. Alors, je vais une artiste de l'exposition. Qui est aussi une amie, m'a dit quelque chose il y a quelques jours et je trouvais ça très beau. Elle m'a dit, d'une certaine manière, on a tous perdu quelque chose avec cette exposition. Au sens où il y a eu un véritable don. Et c'est ça la dépense, en fait. C'est une perte qui génère du don. Donc c'est paradoxal. Et c'est ça que je vois à l'œuvre dans la pièce de cette artiste dont je vous parle, qui est Rebecca Digne, qui a fait une pièce vidéo qui s'appelle « Sel », où elle est allée tourner au petit matin sur une plage du Havre avec des performeurs, en fait. Et le film dure quelques minutes, mais c'est, si vous voulez, tourner entre le lever du jour et la montée de la marée. Et ces personnages agissent de manière étrange. Ils sont sur la plage et ils ont des kawés transparents et ont des gestes extrêmement rituels. Ils détruisent avec un marteau des blocs de sel sur la plage. Ces blocs de sel, qui sont des blocs de sel manufacturés, extrêmement sculpturaux aussi, ils finissent par les briser en morceaux, puis les étalent sur le sable mouillé. Ils vont s'asseoir sur la plage et ils attendent que la marée monte et que le sel soit rendu au sel, que le sel soit rendu à la mer. Donc là, il y a rituel, il y a perte, il y a don et il y a vivant. Il y a du vivant. Et pour moi, c'est pas un hasard si c'est Rebecca qui m'a dit « on a tous perdu quelque chose dans cette exposition » parce qu'en fait, elle a très très bien saisi au plus intime ce que ça voulait dire la dépense et le don aussi, bien sûr.
Alors, on arrive au terme de cette discussion autour de l'exposition Dépense, de la pensée de Georges Bataille. Je vous laisse le dernier mot pour donner envie aux éditeurs, aux auditrices, aux gens de venir voir ce projet. Et aussi, ce dernier mot, je voudrais qu'il soit une réponse au grand public qui a souvent des réticences à aller vers l'art contemporain. Et souvent, les gens pensent qu'il faut être dans une certaine disposition d'esprit ou de tenue pour apprécier cet art.
Bah oui, merci, bien sûr, c'est avec plaisir parce que c'est fondamental. Depuis tout à l'heure, finalement, je parle beaucoup du projet, je parle des artistes, je parle de l'ambition que j'ai pu avoir aussi. Mais ce qui compte avant tout, c'est le visiteur. Le visiteur comme, je dirais, le principe actif de l'exposition. Sans visiteur, il n'y a pas d'exposition. Il faut que le visiteur aussi, il active l'exposition avec son corps. Et en cela, il devient partie prenante, finalement, de cette forme exposition, justement. Il devient physiquement présent dans l'espace. Et l'espace va lui répondre d'une autre manière encore. Et c'est ça qui est fabuleux. Et après, sur les réticences vis-à-vis de l'art contemporain, évidemment, c'est des choses qu'on entend, mais... Alors moi, pour le coup, j'ai peut-être parlé de manière un peu abstraite de certaines pièces, mais il y a quelque chose qui me tient à cœur par-dessus tout, c'est que les œuvres, elles puissent parler directement au cœur et au corps et au cerveau du spectateur, sans forcément en avoir une connaissance livresque, incroyable. Les œuvres que je choisis, les artistes avec lesquels je travaille, ont... toutes à leur manière, une grande physicalité. Elles vont vers le spectateur, elles lui parlent, s'il décide de rentrer en dialogue aussi, hein, bien sûr. Mais donc, c'est très important. Et je prendrai un exemple d'une artiste ici qui s'appelle Manon Bellé, qui est plutôt un travail extrêmement conceptuel, donc a priori qui peut faire peur, on se dit « ouh, c'est de l'art contemporain ». Mais ce qu'elle propose ici, c'est un mur de cendres où on est complètement pris à l'intérieur, le corps pris face à cette installation. Et elle a aussi créé un parfum, une odeur. Donc c'est immatériel, c'est éphémère. Mais alors ça, si ça ne parle pas à l'odorat du spectateur, si vous voulez, c'est impossible. Donc on est face là à une œuvre qui est absolument charnelle aussi. Donc toute l'exposition pour moi... avec des degrés, avec des nuances, mais elle va dans ce sens. Donc elle est faite évidemment pour les visiteurs, avec mode d'emploi ou pas.
Bah, merci beaucoup pour votre temps, et j'espère qu'on aura donné envie comme ça au public de Micro Rebelle de venir s'imprégner de Dépense et de Georges Bataille. Ce premier épisode de Mémoire Vivante est désormais terminé et nous remercions bien entendu Léa Bismuth pour avoir pris le temps de répondre à nos questions. La musique que vous avez écoutée tout au long de ce reportage, c'est Silk Road de Manu Cornet. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain reportage et qui sait, peut-être le mois prochain pour un nouvel épisode de Mémoire Vivante. A bientôt sur les ondes de Micro Rebelle.